midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Et Dessus de table, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end. On va être tranquille aujourd'hui cette semaine, hein, Manu.
Ah oui, oui, oui. C'est pas comme la semaine dernière. Hein. C'était un peu animé l'émission.
C'est animé, oui.
Bah ça continue hein, sur les réseaux sociaux. Je continue à me faire harceler, haranguer.
C'est pas vrai.
Par des centaines de trolls.
Mais qu'est-ce qu'ils vous disent les gens, Manuel Mariani?
Ils disent que vous êtes gentil et que moi je suis méchant.
Mais ils ont tellement. Mais c'est pas
mais
des
ils
trolls.
Ont tellement
ça.
Raison.
Non, non, mais ça c'est pas des trolls, ça c'est des vrais gens.
Non.
Non, mais c'est vrai que vous êtes méchant.
Mais
si vous êtes corse.
Oui, c'est pour ça.
Ça peut s'expliquer.
C'est pour ça.
En fait, ce qu'ils prennent pour de la méchanceté, c'est peut-être cet esprit.
S'ils nous écoutent, faut juste. J'en profite juste pour leur dire d'arrêter de me lancer des vendettas, parce que c'est nous quand même qui avons inventé le système en Corse. Donc, qui se méfient, quoi. Voilà. Ça c'est dit, on va passer à autre chose.
Ça y est, il l'a dit. Bon. C'est la nouvelle année, nouvel an chinois.
Xinan kuai la, Philippe.
Xinan kuai le, hein, tout le monde.
Ah bah voilà. Bah,
moi, j'ai
alors c'est mieux prononcé que moi. Hein. Ça veut dire bonne année, Philippe.
Ah, bonne
en
année.
Mandarin, mais oui. Mais oui.
Alors, moi je me suis arrêté à l'indonésien, Manu.
Ah bah oui, non mais je sais, mais bon, vous pouvez pas parler toutes les langues non plus. Vous parlez 17 langues, sauf le chinois. Voilà. Alors pourtant vous avez été couronné champion du monde de lecture rapide en Chine, pourtant.
Ah ça c'est vrai, ouais.
Ouais, c'est vrai.
Oui.
Eh
ouais,
voilà.
Ouais, ouais,
bon.
Ouais.
Alors.
À Guangzhou. Mais.
Donc vous avez entendu quelqu'un qui prononce mieux que moi. Et ce qui n'est pas dur d'ailleurs, mais lui c'est un vrai chinois, hein, Philippe Cheu. Je prononce bien Cheu.
C'est bien ça, c'est Cheu. Philippe Cheu, oui, c'est ça.
Cheu. Donc Philippe Cheu, qui est Philippe Cheu? C'est le président de la société Oanam. Oanam, c'est une société qui fait des produits traiteurs chinois qui sont plutôt bons, puisque Philippe, vous savez, on commande souvent à la belle vie, hein. Notre café,
vous.
Bah vous aussi. Attendez, le café, l'eau minérale.
Hein,
et puis le guacamole de la belle vie, vous aimez bien aussi, hein. Quand je vous fais des petites surprises.
C'est pas chinois.
Je vous fais des petites feintes. Mais pas du tout, mais tous les produits.
Vous avez une sélection des produits.
Une sélection des produits Oanam sont en vente à la belle vie.
Frais et surgelés aujourd'hui.
Voilà, frais et surgelés, notamment pour les grands sacs de nems, que j'achète souvent, moi, à la maison, pour le plus grand bonheur de mon fils qui est nemoïnomane. J'ai inventé le terme. Alors nems qui ne sont pas chinois, hein, qui sont vietnamiens, c'est des chayo vietnamiens, pour être précis, puisque les nems.
C'est quoi la différence?
Les nems chinois sont faits avec une pâte à la farine de blé, et non pas avec des feuilles de riz.
Nems vietnamiens sont faits à partir de la pâte à farine de riz.
Voilà, c'est ça, les galettes de riz comme on dit. Et ils sont petits, alors que les nems chinois, les pâtés impériaux chinois, pour prendre le.
Avant, on disait pâté impérial, en fait, c'est vrai.
Oui, le pâté impérial chinois, c'est normalement un grand format et c'est des galettes de blé, un peu comme les briques. Mmh. Vous voyez?
Bien.
Voilà, alors.
Les briques ou le. Oui, c'est les briques. C'est la même pâte, en fait. C'est cette pâte-là qu'on utilise.
C'est une pâte. Oui, c'est style feuille de brique, oui.
Oui,
une pâte. Voilà. Et donc, bah, pourquoi bonne année, pourquoi Philippe Cheu? C'est parce que c'est le nouvel an chinois, Philippe.
Et en quoi est-ce que ça diffère de notre nouvel an à nous?
Alors, bah, déjà, c'est pas la même date. Vous l'avez noté. Et puis, il y a tout un tas de traditions culinaires, culturelles, etc. qu'on va pendant toute cette heure détailler avec Philippe, notre invité. Alors, autre chose que parce que je suis pas allé jusqu'au bout de la présentation de Philippe et de Oanam, son entreprise, c'est que Oanam, c'est l'un des pionniers des produits halal, des produits chinois halal, produits traiteurs. Puisque bon là il y a déjà quelques produits comme les nems, je crois,
des nems au poulet halal, oui,
des nems halal, et puis bientôt tout un tas de produits complémentaires. Donc on a le scoop, on a l'exclu, puisque il va y avoir une sortie bientôt de nouveaux produits qui vont tous sortir en même temps et halal, et donc Philippe va nous en parler tout à l'heure.
Les produits halal sont prévus normalement pour le mois de mars. Il faut dire que la matière première que est très rigoureusement sélectionnée par Oanam. Nous, on est les seuls à faire des nems à partir de filets de poulet halal français. Donc, toute la viande est française. On va faire une série de nems au poulet halal, des brioches vapeur, des pains au poulet halal, des bouchées vapeur halal et aussi des samoussas au poulet halal.
Ouais, alors je précise aussi des bouchées aux crevettes, vous savez, les hakao. Ouais. Halal. Pourquoi?
Oui, parce pourquoi halal? Parce que là, si c'est des
mais voilà. Mais justement, justement, quand je vois tous les gens de la communauté qui disent ah non mais moi je mange que halal et qui vont dans les buffets à volonté déjà où tout est dégueulasse, hein, n'ayons pas peur de le dire, et ils vont manger dans ces trucs à volonté qui mélangent du chinois, du vietnamien, du japonais, tout ça, et ils mangent tous les trucs à la vapeur aux crevettes, hein, avec de la barbe de porc dedans quand même. Faut le savoir. Donc, en termes de halal, on fait quand même mieux.
Expliquez-nous là.
Pour le moelleux, parce que la crevette seule c'est sec. Donc pour le moelleux, les fabriques, puis pour des raisons de prix de revient aussi, hein, faut le dire.
Ça, oui.
Voilà, comme le gras c'est le goût, en termes de conducteur de gras, et puis pour avoir du moelleux, puis dans la recette originelle, hein, de toute façon des racao et des siomai aux crevettes, on met de la barde de porc. C'est juste du gras de porc, quoi. Et donc quand vous mangez les racao ou les siomai crevettes dans ces buffets à volonté, ils vont prendre le prix le moins cher, et les racao les moins chers, c'est pas ceux qui sont 100% crevettes. On en trouve, ça existe, hein.
Oui,
mais
ça existe.
Voilà, vous en trouvez chez Paris Store, chez Tang.
Le gras de porc, c'est un liant pour le produit,
voilà.
Et ça donne l'onctuosité à la nourriture asiatique.
Voilà, et donc si vous voulez des racao vraiment halal, il faut qu'ils soient halal, c'est-à-dire qu'on ait remplacé ce liant souvent par des protéines de soja ou d'autres substituts pour éviter la barbe de porc. Donc là, je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui disent quoi, comment
Mais il faut faire attention, en fait. Il faut vraiment regarder la liste des ingrédients dans chaque produit. Mais nous,
sur les buffets, c'est pas toujours indiqué, hein.
Oui. Ça, c'est vraiment directement lié au restaurateur. Il doit prévenir les consommateurs que voilà, il y a de la barre de porc ou il y a du porc dans les produits qu'il a achetés.
Donc, ouais, et puis le halal pour beaucoup de restaurants chinois, c'est une parce que vous savez, ils achètent il y a des restaurants chinois, souvent les cuisses de poulet ou les filets de poulet qu'achètent par carton de 15 kilos les restaurateurs chinois, souvent c'est du poulet halal. Et donc ils s'inscrivent dans des guides, etc., en disant restaurant halal, alors qu'ils servent du porc, tout ça, etc. Et seuls ces poulets sont halal, et puis ils le sont pas forcément. Parfois ils ont des lots qui arrivent qui sont pas des lots halal. Donc méfiez-vous bien. Et puis d'ailleurs, si les auditeurs veulent aller sur mon compte Instagram, qui connaissent déjà bien mariani.manuel, vous remontez un petit peu l'historique et vous allez trouver sur Deliveroo. Moi, je suis tombé sur un restaurant qui livre à domicile, qui fait quand même des nems au porc halal. C'est écrit noir sur blanc. Donc ça, c'est et d'ailleurs ça y est toujours, hein, je les ai prévenus, ils ont dit ah oui c'est gênant et tout, et puis en fait c'est toujours affiché nemo au porc halal. Donc si vous voulez trouver du porc halal, c'est un scoop.
Le pire, c'est qu'il faudrait savoir si ça se vend.
Oui, non mais bah je pense que ça se vend auprès des gens qui ne mangent pas halal. Oui,
pas halal. Bon, alors à part la date, qu'est-ce qui est différent dans la façon de fêter le nouvel an chinois?
Il y a beaucoup de symbolique et beaucoup de traditions culturelles. Bon, on peut en parler avec. Alors, avant de parler déjà de la nourriture, je crois, le nouvel an chinois, c'est pas une soirée, ça dure un mois, quoi.
Hein. Ça dure un mois, oui. À la base, le plus important, c'est la veille du nouvel an chinois. C'est en gros le nouvel an chinois, c'est le regroupement de Noël et la Saint-Sylvestre, parce que c'est un regroupement de la famille. C'est une fête et ça commence dès la veille. Donc les gens souvent en Asie travaillent tous loin de la famille et ils attendent ce moment-là pour se regrouper, pour fêter en famille et célébrer le nouvel an chinois.
Voilà. Et pourquoi un mois, Philippe? C'est parce que à la base, quand on fêtait le nouvel an chinois, avant qu'il y ait des lignes aériennes intérieures en Chine, qu'il y ait un réseau ferroviaire très développé, quand on allait parce qu'on doit aller voir toute sa famille pendant au cours
c'est
du nouvel an chinois.
C'est le moment de l'année, en fait.
Voilà,
où les gens se regroupent.
On est obligé presque, hein, dans la tradition, d'aller voir sa famille au nouvel an, pendant le nouvel an chinois. Et comme à l'époque il n'y avait pas les communications internes, parfois on mettait 15 jours pour aller voir sa famille dans son village d'origine ou dans sa ville d'origine. Et du coup, le gouvernement déclarait un peu un mois entier fête du nouvel an pour avoir le temps de se déplacer aussi.
Il n'y a plus rien. Tous les commerces sont fermés. Tout le monde a rejoint sa famille et ils célèbrent tous le nouvel an chinois en famille. Et tous les business sont quasiment fermés.
Est-ce que c'est tous les ans à la même date ou ça bouge?
Non, c'est basé sur le calendrier lunaire.
Ouais.
Donc, ça, c'est entre... mi-janvier à mi-février, en fait. Chaque année, ça change.
D'accord, oui, mais ça bouge pas plus que ça, en fait. Ça tourne pas dans l'année.
Non, ça tourne pas dans l'année.
Et alors, c'est quoi la règle pour fixer le nouvel an chinois? C'est la nouvelle lune.
C'est la nouvelle lune, c'est ça. Mmh. Ouais.
Ah, c'est ça. Ouais. Donc c'est la nouvelle lune entre janvier et février.
C'est ça.
D'accord.
Bon. Voilà. Et donc, alors c'est un petit peu différent pour l'Asie du Sud-Est, hein, parce qu'en Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Laos, là on fait la fête de l'eau. Oui. Donc c'est encore un petit peu différent les dates. Et c'est vrai qu'on le fête pas encore beaucoup en France. Bon d'ailleurs on en parlait en préparant l'émission avec Philippe. C'est vrai que la première immigration vietnamienne en France, et c'est ceux qui ont fondé un peu le Chinatown, le Chinatown du 13e arrondissement. C'était une immigration vietnamienne, mais d'origine chinoise. Hein.
C'est les Taïju, dont
vous faites partie d'ailleurs. Oui. Donc vous avez la double culture hein, vietnamienne et chinoise. C'est pour ça que j'en profite pour parler de la fête de l'eau. Et donc, du coup, c'est effectivement la tradition chinoise qui l'a emporté. Mais certains restaurants commencent à faire des nouvel an, la fête de l'eau,
Oui. Mais c'est, on appelle ça le nouvel an chinois, mais faut savoir que c'est un nouvel an lunaire.
Lunaire, voilà.
Donc
oui.
Il y a quand même des pays comme Singapour, la Corée, le Japon qui le célèbrent, mais c'est vrai que comme la Chine est
omniprésente,
elle est plus présente. On appelle ça le nouvel an chinois, mais c'est un nouvel an lunaire.
Alors, j'aimerais qu'on revienne sur les traditions hein, de ce nouvel an. Donc, on a parlé du réveillon, qui était le jour. Donc, c'était un jour important. Oui. Ça représente quoi ce réveillon?
Le réveillon, c'est mis à part le regroupement de la famille. Bon, faut savoir que l'histoire, en fait, c'est ancestral. Hein, c'était la légende d'il y a plus de 4000 ans. C'était en fait, à l'époque, il y avait un monstre qui était dans l'océan, au fin fond de l'océan, qui venait attaquer chaque année à la même période pour le nouvel an lunaire, les villageois.
Un genre de monstre du Loch Ness, un petit peu.
Un genre de monstre du Loch Ness avec des cornes, un long cou, qui ressemble un peu à un dragon.
Souvent par facilité, on dit c'était le nouvel an chinois. J'ai vu la danse du dragon, mais c'est pas un dragon, c'est un lion en fait. Hein. C'est la danse du lion. Hein, ne pas confondre.
Et l'histoire, c'est que tous les villageois à cette année avaient peur de ce monstre, donc ils fuyaient le monstre parce qu'il sortait de l'eau et il détruisait tout le village et tuait les villageois. Et un vieil homme a décidé de se battre contre ce monstre et du coup il s'était habillé tout en rouge. Il a utilisé les bambous pour les brûler pour faire des sortes de craquements de pétards et c'est de là où en fait il a réussi à battre le monstre et tous les villageois l'ont suivi. Mmh. Et c'est de là où est venu le nouvel an chinois.
Voilà. Et donc ce personnage dont vous parlez que les Parisiens quand ils le voient hein, dans les défilés du nouvel an avec sa barbe et tout, on l'appelle le Père Noël chinois un peu hein, parce qu'il est souvent habillé en rouge, donc c'est un peu le Papa Noël chinois, mais c'est un personnage à part entière qui n'a rien à voir.
Il s'appelle comment?
Il s'appelle Nien, je crois.
Il a une longue barbe très fine. Il est habillé tout en rouge avec des habits souvent en soie ou en tous les cas satinés, brillants. Et il distribue des petites enveloppes rouges aux enfants hein, et aux grands aussi d'ailleurs, dans lesquelles on met des petites pièces. Alors ça, c'est pour la prospérité.
Oui, c'est pour la prospérité, c'est pour le bonheur. C'est une culture que les personnes âgées donnent aux enfants.
C'est un peu comme l'Aïd ou comme Noël.
C'est les étrennes.
Ouais, c'est les étrennes, une forme d'étrenne. Ouais.
On n'échange pas de cadeaux, nous on échange des enveloppes pendant le Nouvel An chinois.
Voilà, alors normalement le Nouvel An chinois il se termine le 15e jour, c'est ce qu'on appelle la fête des lanternes, hein, Philippe. Hein,
oui, c'est ça.
Voilà, donc il y a deux parties, hein, il y a là, vraiment le début des festivités où effectivement là il y a la danse des lions. Alors la danse des lions en fait, il y a beaucoup de commerçants par exemple. Alors la danse des lions elle est faite généralement par les écoles de kung-fu parce que ça demande quand même un peu de souplesse marché, oui. Hein, pour manier cette espèce de grand lion là parce qu'il fait des acrobaties quand même. Hein,
ouais. Oui, mais il y a plusieurs personnes qui le manient d'ailleurs.
Oui, absolument, absolument, parce que t'as de la tête à la queue, il y a du monde en dessous partout. Ouais. Hein, ça ressemble plus à un mille pattes d'ailleurs qu'à un lion. mais effectivement, bon, ce sont des écoles de kung-fu. Bon, derrière vous avez des tambours, etc. pour rythmer cette danse. Et beaucoup de commerçants payent les écoles de kung-fu pour que le lion vienne chez eux. Et en fait, le lion commence sa danse à l'intérieur du commerce et il part. C'est pour montrer que la mauvaise chance et la mauvaise fortune quittent le magasin. magasins et c'est pour que le commerce soit prospère. Alors je sais pas si vous avez vous chez Oanam, vous êtes nos voisins, vous êtes juste de l'autre côté de la Seine, hein, par rapport au studio. Je sais pas si vous avez fait, vous allez faire venir les lions cette année.
Bah avec le confinement, avec avec ce qui se passe avec la crise,
c'est un peu plus compliqué.
C'est un peu compliqué, oui.
Bon, on verra tout à l'heure ce qu'on mange hein, pour le nouvel an chinois. Vous pouvez d'ailleurs, si vous avez des questions, les poser au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Vous me regardez, Manu. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Pas du tout. Vous avez tout dit. Vous êtes parfait, Philippe. Continuez comme ça.
Bien. Bah, en tout cas, on continue comme ça au moins jusqu'à 13h, Manu.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Voilà, et aujourd'hui nous parlons du nouvel an chinois, Manu. Alors c'est l'année de quoi cette année?
Parce Chinan Guai là.
Il y a toujours un animal hein, pour l'année.
Oui, alors cette année c'est le tigre, Philippe.
C'est hein. bien ça, c'est le tigre. Ouais. Le tigre qui représente la puissance, l'audace, la capacité. Et en fait, c'est l'année de tous les changements parce que c'est le tigre représente le changement. Donc, on va le voir cette année.
Voilà. Et on associe toujours un élément, hein, l'eau, le feu, la terre, etc. Et je crois que c'est le tigre d'eau cette année, Philippe.
Comment alors les animaux reviennent par cycle ou c'est toujours un animal qui n'a jamais été, donc ça n'a jamais été l'année?
Il y a 12 animaux et c'est des cycles de 12 ans.
Oui. Alors les années du tigre, c'est de 1914, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 2010, 2022 et donc le prochain ce sera en 2034. Vous voulez quelques tigres célèbres, Philippe?
Ah, avec plaisir. Hein? Franchement, j'allais vous demander.
À part
là,
vous, puisque vous êtes né en 1938, comme tout le monde le sait.
38. Mais vous êtes bien renseigné, dites donc.
Bah, attendez. Et donc, vous êtes tigre comme.
Ascendant lapin.
Non, mais vous êtes. Vous êtes tigre ascendant balou. Et donc. Et donc des tigres célèbres, on a Beethoven, on a la reine Elisabeth II, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper, Demi Moore, etc. Quelques Chinois célèbres. On a Lin Chi Ling, qui est tigre de bois. C'est une. Alors elle est pas en bois, hein, la jeune femme. C'est une mannequin et actrice taïwanaise très très réputée.
Pourquoi vous dites célèbre si on la connaît pas?
Bah, elle est célèbre. Vous êtes célèbre en Chine, Philippe, vous avez beaucoup plus de gens qui vous connaissent que quand vous êtes célèbre en France, hein, en général. Vous savez, c'est démographique.
D'accord.
Vous voulez que je développe ?
Non,
okay.
C'est bien.
C'est clair. Ok. Vous avez Tony Leung Chiu Wai aussi, qui est un acteur et chanteur de Hong Kong. Et puis sinon, chez les Français, on a Louis de Funès, Marguerite Duras, Michel Galabru, Georges Guettari, Alec Guinness. Je sais pas pourquoi je l'ai mis dans les Français, c'est bizarre.
Georges Guettari. Ouais.
Voilà, Haroun Taziev. Voilà, et puis d'autres, hein, comme Oscar Wilde, Robbie Williams, Ophélie Winter. Et votre ami avec qui vous avez travaillé dans les années 30, Léon Zitrone.
C'est vrai. Ouais. Il était tigre.
C'est ça. Et donc, eux, ils étaient tigres, effectivement. Et puis, tigre d'eau. Est-ce que j'en ai des tigres d'eau? Oui, Tom Cruise, donc, est tigre d'eau. Sandrine Dominguez, Liane Folly, Jodie Foster, Valérie Caprisky, Lio, Marc Lavoine. Vous voyez, pas mal de. Et puis, votre chanteuse préférée, évidemment, Sabine Paturel.
Qui faisait rien que des bêtises. Les Chinois, ils croient beaucoup à ça ou ça, c'est du folklore?
La majeure partie des Asiatiques le croient au signe du zodiaque chinois. Il y en a qui décident, ils disent que voilà, cette année c'est l'année du tigre et qu'ils veulent avoir des enfants pour l'année du tigre parce que c'est quelqu'un qui est. C'est un animal qui a plus de prestige que les autres animaux, tels le lapin, le buffle ou les autres signes de l'astronomie chinoise.
Alors quand on est un fidèle du nouvel an chinois comme moi par exemple, on voit qu'il y a des plats qui reviennent tout le temps, tous les ans. Hein, c'est comme ce qu'on appelle les marronniers en presse, hein, qui refleurissent tous les ans. Qui reviennent à la même époque tous les ans. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de plats incontournables que on mettra toujours sur une table de nouvel an chinois et pour quelle raison? Parce qu'il y a une symbolique qui est toujours associée. Hein.
Un des plats incontournables, c'est le poisson. Qui en fait en chinois c'est yu et ça veut dire abondance. Donc les familles chinoises ont un poisson vapeur ou cuit au four pour la prospérité.
Oui, d'ailleurs en mandarin poisson et abondance ça se dit pareil.
C'est ça. Un autre plat serait.
Mais ça veut dire que c'est du poisson. Alors c'est pas codifié quoi. Il faut que ce soit du poisson.
Oui, il faut que ça soit du poisson.
Oui, alors je précise ce qui est très important, hein, parce que si vous voulez faire plaisir à des amis chinois et leur faire un repas de Nouvel An chinois, si vous leur servez du poisson, attention, vous ne leur servez pas des filets de poisson. Le poisson doit être entier.
Il est entier, oui.
Et avec la tête surtout, hein. C'est pas entier sans la tête non plus. C'est entier et avec la tête. Sinon, la symbolique, c'est fini. Il n'y en a plus, hein. Ça devient même néfaste, on va dire, presque, hein. C'est pire.
D'accord. Donc ça, c'est pour le réveillon.
Oui, parce qu'on mange des filets de poisson le restant de l'année.
C'est vapeur, souvent, oui.
Ouais, souvent vapeur avec la sauce de haricots noirs ou le gingembre et l'oignon chinois. Vous savez, la ciboulette fraîche, là, vous savez, l'oignon frais, voilà.
Qu'est-ce qu'on a d'autre comme plat traditionnel du Nouvel An?
On a le nian cao.
Ah, nian cao. Gâteau de régluant, oui.
Et c'est pareil, c'est signe de. C'est pour avoir la prospérité, la richesse. Et souvent, c'est fait par la propre famille. Ils le font ensemble. Entre la grand-mère, la mère et les enfants.
Ouais, alors pourquoi prospérité? C'est parce que en fait, en fait, dans la cuisine chinoise, hein, d'ailleurs, on le voit sur les cartes des restaurants chinois en général. Il y a beaucoup d'entrées, beaucoup de plats. Puis quand vous regardez les desserts, il y a pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il y a pas une grosse tradition des desserts, hein, en Chine. Et quand on a des desserts en général, à Canton, il y a des desserts vapeur comme Malaiko, vous savez, qui est une espèce de grosse brioche. Toujours à Canton, il y a aussi ces petites perles de ce qu'on appelle des perles de coco, vous savez, ces desserts à la vapeur. Mais des desserts cuisinés, des gâteaux, des trucs comme ça, il n'y a pas tant de choses que ça. Et pourquoi? C'est parce que à la base, le sucre était une denrée qui coûtait très cher. Et donc, quand on sortait le sucre du placard, c'était pour préparer des produits de fête, pour faire honneur à un invité ou autre. Et donc, quand on fait ces niangao, qui sont ces gâteaux de riz gluant, c'est signe de prospérité pour la nouvelle année, et c'est pour élever son niveau de vie avant l'année qui vient.
Et avec les niankao, vous avez aussi l'autre boule de riz sucré qui s'appelle les trangnuen. Mm-hmm. Et c'est des boules avec de la sésame à l'intérieur dans une soupe un peu sucrée.
C'est ça, un espèce de sirop un peu.
C'est
hein,
ça, ouais, ouais. C'est siropeux.
Ouais. Alors autre incontournable du Nouvel An chinois, Philippe. Alors j'ai Philippe au pluriel aujourd'hui, hein, comme oui. J'ai deux Philippe avec moi sur le plateau, ça change. Et donc autre incontournable, ça c'est vrai que on le trouve toujours, c'est les chaoti, c'est les. Alors vous me reprenez, hein, Philippe II, hein. Je vais dire Philippe 1 et Philippe 2. Donc Philippe Thieu, vous me reprenez si je prononce mal, hein, les chaoti, qui sont des raviolis, hein. Pourquoi? Parce que le ravioli a la forme, on dit qu'il a la forme d'une petite bourse, un petit porte-monnaie, et que donc c'est un signe de prospérité, de fortune. Donc ça c'est indéboulonnable, hein, dans le nord de la Chine. Ils sont farcis à la viande dans l'est, et c'est un peu comme la galette des rois, parce qu'on a coutume, notamment à l'est ou chez les Wenzhou, on cache une pièce de monnaie dans une des boulettes de pâte, et celui qui tombe dessus, il aura encore plus de fortune que les autres. Il se casse une dent, ouais. mais comme il a de la chance pour l'année qui vient, la dent va repousser a priori. Et donc ces petits raviolis, c'est aussi un symbole de la réunion familiale, du bonheur, mais aussi de la bonne fortune avec ces. D'ailleurs, je vous dis la bourse, non. Ça c'est un autre ravioli. Les chaozi, c'est parce qu'ils ressemblent aux petits lingots traditionnels chinois, les petits lingots d'or. Je vous ai dit des bêtises.
Ça ressemble à des sortes de guillots, ça.
Ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on appelle le gyoza, oui, effectivement, en Chine, parce que de plus en plus sur les cartes des restaurants, on voit les gyoza à la place des jiaozi, alors que chaque ravioli a un nom spécifique. Hein. Il y a les jiaozi, baozi, chaolongbao.
Mais ce que vous appelez, Manu, des raviolis, ce sont des vapeurs.
Oui, des raviolis à vapeur ou pas. Non, non, parce que attention.
Non, ça peut être frit aussi.
Ouais, les chaozi, ils ont une double cuisson, c'est-à-dire que vous les cuisez d'abord à l'huile. C'est pour ça que souvent ils ont le dessous qui est grillé. Ensuite, vous rajoutez de l'eau, vous couvrez, vous faites une cuisson à la vapeur. Ensuite, vous ouvrez le couvercle et l'eau s'évapore. Et donc, ça va vous donner quelque chose de croustifondant, on va dire.
Exactement.
Voilà. Et ça, c'est effectivement les Jiaozi qui sont donc croustilles fondants. Vous avez les Xiaolongbao, ça, c'est effectivement ceux qui ont la forme d'une petite bourse, oui. et qui ont du bouillon à l'intérieur. Alors ça, c'est à manger d'une seule bouchée, parce que si vous croquez dedans, vous en avez plein sur la chemise après. Les Xiaolongbao, ça, c'est il y a une mode en ce moment des Xiaolongbao.
Oui, parce que c'est différent. Il y a une petite soupe avec la farce et il y a ce côté qui est différent des produits vapeur classiques.
Est-ce que vous savez comment on fait pour faire rentrer la soupe dans le ravioli?
J'étais en train de, ils ont avec des seringues.
Pas du tout.
Non.
Pas du tout. Non, en fait c'est très simple. Vous faites, enfin moi c'est comme ça. J'en ai déjà fait à la maison. C'est comme ça que je l'ai fait parce que j'avais pas de recette. Mais ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai fait mon bouillon. Vous faites un peu le même bouillon pour une soupe chinoise. Et moi j'ai congelé ce bouillon dans des bacs à glaçons. Et en fait
après vous mettez la pâte autour.
Après je l'ai égrené pour faire comme un granité. Et puis j'ai mis ma pâte, mon bouillon. C'est comme ça qu'on fait en Chine
en bouillon ou en gelée et après
en gelée aussi, oui, ça j'ai pas pensé.
Ça commence à fondre.
Ouais, et peut-être que si on met un peu d'agar agar,
c'est ça, avec de l'agar agar.
Ouais, mais j'y ai pas pensé. Ça aurait été peut-être plus rapide.
Vous voyez comme quoi. Avant la congélation, ils faisaient forcément de la gelée, donc voilà.
Oui, bien sûr. Oui. De toute façon, les bouillons, c'est le cas aussi en Asie du Sud-Est. Hein, quand on voit les bouillons qu'on fait pour les pho, les rodiyu, enfin toutes les soupes vietnamiennes sont des bouillons avec beaucoup d'os, des très très longues cuissons. Donc c'est clair, ce sont des bouillons quand ils refroidissent, vous avez une gelée qui se tient. Donc pour les Xiaolongbao, ces longues cuissons des bouillons chinois ou vietnamiens sont effectivement parfaits puisque il y a beaucoup de collagène et de gélatine, donc ce sont des bouillons qui prennent au refroidissement. Hein. Mm-hmm.
Pour la fortune, il y a aussi les nems.
Ah oui.
Qui est un produit incontournable. Les nems, et je voulais vous dire.
Donc les nems, là, on parle des nems chinois et non pas des nems vietnamiens.
Ça s'appelle chuan tien en mandarin, ce qui veut dire chuan, ça revient du le printemps. Parce que le nouvel an lunaire, c'est aussi la fête du printemps. Mm-hmm. Et d'où vient en fait la connotation de chuan pour le printemps.
D'ailleurs, en Asie du Sud-Est, on fête aussi ce nouvel an dit chinois, mais on l'appelle la fête du tête, hein, je crois, hein, c'est ça.
Qui est aujourd'hui aussi la fête du tête.
Oui. Ça démarre, je crois que ça démarre aujourd'hui, il me semble. Hein. Voilà, donc alors autre chose aussi qu'on trouve souvent sur les tables du nouvel an chinois, c'est le hot pot, comme on dit, la fondue chinoise, hein, qui est la marmite, hein, qui est un plat de fête par excellence. Surtout qu'en plus selon les années, le nouvel an chinois est un peu plus printanier ou un peu plus hivernal. Donc quand il est plus hivernal, ça tombe plutôt bien. Généralement, on pose cette marmite au centre de la table, et puis les ingrédients, chacun a ses ingrédients qui fait cuire dans ce bouillon, hein, de la viande, des fruits de mer, des légumes,
des boulettes de poisson,
etc. Ça dépend un petit peu dans la partie nord qui est proche de la Mongolie intérieure, les Chinois ils font même ça avec du mouton cette même marmite au Sichuan. Faites attention si vous avez des amis sichuanais qui vous invitent à manger cette marmite chez eux, parce que une cuillère à café de leur bouillon, il est tellement pimenté que ça peut vous décoller le cuir chevelu, Philippe, hein, je vous le dis.
Et le reste surtout.
Et le reste.
Hot pot. Pourquoi on appelle ça hot pot, vous savez, Manu?
Bah, pot, c'est le pot chaud, c'est la marmite. Ouais, tout à fait. C'est la marmite et c'est un vrai plat traditionnel. Le hot pot, en fait, c'est le nom de l'ustensile, hein, qu'on traduirait nous par marmite ou poêlon, quoi. Hein, parce que selon les régions, il est métallique ou en terre, hein, je crois, Philippe.
Oui, il est métallique ou en terre, mais le hot pot est bien parce que en fait, c'est pour les familles plus modernes où ils veulent se regrouper, ils veulent faire ça rapidement, ils n'ont pas le temps de préparer du poisson, ils n'ont pas le temps de faire des grosses préparations de cuisine, ils ont le hot pot où voilà, ça plaît à tout le monde dans la famille parce que vous piochez ce que vous voulez manger.
Ouais, d'ailleurs souvent c'est un plat qu'on fait la veille du début nouvel an chinois, c'est pour marquer le départ de ce mois de festivité. Aujourd'hui, hein, dans la Chine moderne, on est plus sur 15 jours à peu près, hein. On s'arrête au festival des lanternes qui est au bout de 15 jours, puisque maintenant on voyage voyage plus vite. Hein. Il y a des avions, des lignes intérieures en Chine, et des trains, tout est très bien desservi. Donc, pour aller voir la famille, on n'a plus besoin d'un mois entier. Alors, autre chose aussi, les repas dans les repas de Nouvel An chinois qu'on trouve quasi systématiquement, ce sont des nouilles. Hein,
nouilles qui représentent la longévité.
Voilà, hein, parce que les nouilles sont très longues. Alors, attention, si vous avez, si vous invitez des amis chinois à la maison, ne coupez pas les nouilles avant de les cuire. Il faut que les nouilles soient le plus longues possible, parce que plus les nouilles seront longues, plus les convives vivront longtemps, hein, selon la croyance populaire chinoise. Donc petit conseil, hein, je crois que vous confirmez ça, Philippe. Faut qu'on ne coupe pas ces nouilles. Et même quand on les mange, d'ailleurs, on les aspire, hein, on les coupe pas avec un couteau ou sa cuillère. Voilà, il faut les slurper, voilà. Ouais. Vous avez très bien dit ça, Philippe.
Les slurper, c'est un bon mot. Et les gens les font, ce sont des nouilles fraîches alors que les gens font eux-mêmes ?
Normalement, oui, c'est fait à la maison, mais aujourd'hui, je pense que c'est tellement difficile de faire des nouilles que les gens achètent ça au supermarché. Hein.
Ouais, alors moi, quand d'ailleurs, vous en faites peut-être, non, chez Rohanam,
des nouilles comme ça.
Parce que c'est vrai que ce sont des nouilles, enfin, pour en tous les cas, pour le Nouvel An, en général, on cuisine vraiment des nouilles fraîches. Mais moi, quand je veux des nouilles fraîches, ce que je fais, vous savez, il y a beaucoup de restaurants maintenant, vous les voyez en vitrine, hein, ils font leurs nouilles à la main, vous les voyez dérouler cette pâte, vous savez, qui coupe, qui recoupe en deux, puis en deux, puis en deux, jusqu'à ce que ça fasse des nouilles très fines et très longues. Et quand j'en veux, moi, je vais dans ces restaurants et je leur demande de me vendre des nouilles crues, quoi, que je cuis moi-même au moment où j'en ai besoin. Et ça se garde, pratiquement, peut-être pas une semaine, mais 3-4 on va dire, ouais, 3-4 jours. Et voilà, c'est comme si vous alliez acheter votre pâte à pain chez votre boulanger, quoi, en gros. Hein.
Et vous mettez quoi comme sauce avec ?
Alors, moi, les nouilles sautées, j'aime bien les faire avec de la sauce d'huître, des légumes. D'ailleurs, on pourra parler aussi des légumes dans la symbolique, du Nouvel An chinois, parce qu'il y a toujours un plat de légumes verts, je crois. Longs légumes verts, type.
Dans le même style que les nouilles, quoi.
Type kailan ou des choses comme ça. Et donc les nouilles, moi j'aime bien avec la sauce d'huître, un petit peu d'oignon. Puis après, vous mettez tout ce que vous aimez, hein, du bœuf ou des crevettes. Des pousses de soja. Enfin bon, là, ça, c'est ma recette perso, mais je suis sûr qu'il y a des recettes connues que Philippe pourra nous donner.
Tout à l'heure. Et on parle justement de cette gastronomie du Nouvel An chinois ce matin dans Dessus de Table, et c'est jusqu'à 13h.
Dessus de Table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de Table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Et on parle aujourd'hui de la gastronomie du Nouvel An chinois. C'est l'année du tigre, Manu. Alors, on a commencé à parler des traditions.
Le tigre d'eau, hein, je précise.
Oui, voilà. Un animal et un élément. Mais c'est vrai qu'on a souvent des idées fausses sur la cuisine chinoise, parce que dans beaucoup de restaurants chinois, on mange de la cuisine, mais qui vient de partout en Asie.
Oui.
Et c'est pas forcément de la cuisine chinoise.
Effectivement. Alors, c'est vrai que, bon, déjà à la base, parce qu'il faut expliquer l'histoire migratoire, hein, des premiers chinois qui sont arrivés en France, qui n'étaient pas totalement chinois, qui étaient d'origine chinoise, mais qui pour beaucoup, ils avaient fui le communisme et ils vivaient souvent dans les pays d'Asie du Sud-Est, comme la Thaïlande, le Vietnam, le Laos, hein, ou le Cambodge, hein, je crois, vous confirmez. Et donc, d'ailleurs, beaucoup de ces gens-là étaient issus de la communauté Taichu, donc dont vous faites partie, vous, Philippe Thieu. Alors les Taichu, ils viennent un petit peu, c'est au sud-est de Canton, hein.
Oui, sud-est de Canton. Oui.
Le village de Suatao, il me semble. Shantong, voilà. Bon, je prononce assez mal.
Canton, c'est Guangzhou maintenant.
Ouais, Guangzhou.
C'est ça, la région de Guangzhou.
Voilà, donc c'est vrai qu'il y a chez les Taichu, il y a une culture cantonaise assez marqué, avec beaucoup de spécificités. Et en fait, c'est poursuivre la révolution culturelle, pour fuir la révolution culturelle, beaucoup de ces Taichu qui étaient des commerçants, hein.
Les Taichu sont très réputés pour être des commerçants.
Voilà. Alors, souvent, il y a certains Chinois de France qui disent les Taichu, ce sont les Juifs de la Chine, hein.
Pas très loin.
C'est un peu loin, voilà, mais du fait qu'effectivement dans les communautés juives on était très souvent commerçants, etc. Donc il y a ce parallèle culturel un peu tiré par les cheveux qui est fait, et donc beaucoup se sont réfugiés en Asie du Sud-Est, ce qui fait que les premiers Chinois qui sont arrivés en France, ils avaient, puisqu'ils avaient été naturalisés souvent vietnamiens, cambodgiens, thaïlandais, donc ils sont arrivés avec des nationalités beaucoup vietnamiennes hein, pour la plupart, puisque après avoir fui la Chine communiste, ils ont fui la guerre d'Indochine, du Vietnam, etc. Et du coup, les premiers Chinois à être arrivés en France avaient cette double culture, souvent vietnamienne, et c'est pour ça que au début, souvent les restaurants étaient de spécialité chinoise et vietnamienne. Voilà.
Hein, je crois que c'est exactement ça.
Voilà.
Mais c'est grâce aussi aux relations que la France avait gardées avec le Vietnam de l'époque.
Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Et donc, ces premiers immigrés chinois qui se sont installés dans le 13e arrondissement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle du Chinatown parisien, même si on a plusieurs maintenant, hein, des Chinatown parisiens. On verra ça tout à l'heure. Mais voilà. Donc
ben, on va évoquer le Chinatown voilà. maintenant.
Mais
parce
maintenant,
que tout à l'heure,
l'immigration est beaucoup plus Wenzhou. Donc, on trouve beaucoup de restaurants de ravioli ou des restaurants de nouilles qui sont un peu les spécialités Wenzhou.
Alors, en gros, combien il y a de Chinatown à Paris, Manu?
Alors, bah, il y a celui du 13e hein, qui est le plus grand, le plus ancien et le plus grand. Bon, après, il y a Belleville hein, qui est très mixte. Hein. Alors, entre la Tunisie et la Chine, hein, donc.
Même si la Chine grignote. Hein.
À la Chine grignote, mais bon.
À Belleville.
Voilà, ouais. Mais Belleville, alors là, donc les Chinois d'origine cantonaise, Teochew, etc., ça c'est plus le 13e.
Ouais.
Même si les Wenzhou grignotent beaucoup, là, en ce moment, dans le 13e. Mais Belleville, on est plus sur les Wenzhou, hein, quand même. Et là où vous trouverez vraiment le plus de Wenzhou en pourcentage, c'est le petit Chinatown à côté d'Arts et Métiers, hein, pas très loin de chez vous, pas très loin de chez moi, Philippe.
Rue Volta,
voilà. Rue des Gravilliers, rue Homer, où vous avez plein de petites échoppes, des supermarchés qui sont vachement bien ouverts le dimanche. Moi, je vais faire mes courses là-bas le dimanche parce que vous avez la boucherie, la poissonnerie qui est ouverte. C'est super pratique. Oui, non, mais vous levez les yeux au ciel, vous allez chez Madame Plisson le dimanche. Ouais. Hein Delphine, si tu nous regardes. Voilà. Et donc, attendez.
Manuel Mariani va faire ses courses à la supérette chinoise le dimanche.
Oui.
Ça ne s'invente pas.
Mais non,
vous avez une vie, vous, Manu. C'est ça qui est intéressant.
Voilà, moi,
vous avez une vraie vie.
Je ne vais pas chez les bobos, moi. Bon. Et donc, vous avez aussi, alors, beaucoup moins connu, mais vous avez un petit quartier, alors que là, qui est aussi un petit peu Teochew, hein, parce que il y a des restaurants vietnamiens, des restaurants thaïlandais, des restaurants chinois, cantonais. J'essaie de retrouver le nom. C'est dans le 18e, c'est près de la Porte de la Chapelle, là, vous savez, entre la Porte de la
Chapelle.
Non, dans Paris, ça va
alors,
revenir.
Y a
la rue de l'Évangile, tout
oui,
ça.
Oui, il y a le quartier pakistanais qui n'est pas très loin, et il y a le quartier indien, et vous avez une enclave chinoise aussi.
Voilà, tout à fait, où vous avez un supermarché Paris Store, un supermarché Tang Frères, et ça, c'est vraiment le quartier chinois le moins connu de Paris. Hein.
Alors, vous parliez, et c'était intéressant, de la façon qu'on a de cuisiner le brocoli, Manu.
Alors oui, ça fait partie effectivement des plats traditionnels du Nouvel An chinois. Hein. Pendant la pause, Philippe nous expliquait que on consomme toujours un légume vert le plus long possible. Alors
comme pour les nouilles.
Voilà, comme pour les nouilles, c'est la longévité, c'est ça?
Et pour la longévité.
Voilà, et donc ces légumes verts, donc souvent c'est le kailan. Alors qu'est-ce que le kailan, Philippe?
Le kailan, c'est une fleur de brocoli.
Une feuille, oui.
Une feuille de brocoli, oui. Et c'est un produit qui est en fait incontournable dans les plats asiatiques chinois pour les légumes.
C'est-à-dire que nous on ne les mange pas du tout, Manu, les feuilles de brocoli.
Alors non, nous on mange les fleurs qui sont à mon sens beaucoup moins bonnes parce que la feuille de brocoli, alors déjà au niveau vous faites les émissions santé aussi Philippe, donc on va parler 2 minutes santé. La feuille de brocoli, donc le kailan ou le kana en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande, c'est un concentré de fibres, de nutriments, de vitamines, alors que dans la fleur de brocoli, franchement, il y a pas grand-chose hein, c'est bon pour la santé comme tous les légumes verts, mais et puis surtout au niveau goût, c'est d'une finesse.
Le brocoli, on disait que c'était l'élément anti-cancer et antioxydant par excellence.
Oui, mais encore plus dans les feuilles. Encore plus dans les feuilles, Philippe.
Vous retrouvez beaucoup plus de croquant dans les feuilles de brocoli.
Ouais. Et voilà. Et c'est croquant. Il y a beaucoup de fibres. C'est très, très, très bon.
Mais alors,
ça se mange sauté à la sauce d'huître.
Vous les sautez, c'est ça?
Ah oui, on les fait pas bouillir. C'est sauté, hein, c'est
sauté
ça. On les fait au wok.
Sauté à l'huître et au wok.
Aïe, sauce d'huître. Et c'est délicieux. Ça, je veux dire, un bon plat chinois avec un peu de kailan sauté à la sauce d'huître et un petit riz parfumé, c'est nickel.
On n'a pas parlé des fruits, Manu. Des fruits du Nouvel An.
Oui, alors Philippe, on offre des fruits à la fin du repas.
C'est comme pour les hongpao, les enveloppes rouges, on offre des mandarines ou de l'orange, ce qui en fait exprime la plénitude, la prospérité pour la famille.
Ah, on les offre?
Oui, c'est les personnes aînées qui offrent aux enfants ou aux amis.
Oui, alors. Parce qu'en même temps, moi, je suis sur Google Maps, hein, parce que je n'aime pas quand je ne retrouve pas mes mots. Le quartier chinois, hein, qui est le moins connu de Paris, c'est à Marx-Dormois. Voilà, je cherchais la station de métro. C'est à côté du marché de l'Évangile, quartier de l'Évangile, qui est un quartier d'ailleurs en pleine boboisation, on va dire, et tout ce Tout ce quartier-là autour de, donc quand vous êtes à Marx-Dormois et que vous regardez vers le nord, hein, vers la porte de la chapelle, sur la droite, vous prenez les petites rues et vous allez trouver un supermarché Tang Frères, un supermarché Paris Store. Vous allez trouver plein de restaurants vietnamiens, des restaurants chinois où on mange franchement très très bien. Et voilà, ça c'est un peu méconnu comme quartier chinois.
Bien, si on veut aller manger chinois pour le nouvel an, où on va manger, Manu?
Alors moi personnellement cette année je serai chez Madame Li, que vous connaissez, Philippe, hein, que oui. Nous avons déjà reçu, hein, donc où on mange très très bien. Bon,
c'est un très beau restaurant. Oui.
Très beau restaurant. Ouais. Autre très beau restaurant. Il y a cette année un menu spécial au Shang Palace, Philippe, le restaurant du Shangri-La avec son chef Samuel Lee. Mais là, il faudra que vous cassiez un peu la tirelire, parce que bien évidemment, on parle d'un menu chinois étoilé dont je suis en train de chercher le prix. Je l'ai plus sous la main. Je vais vous le retrouver. Et puis il y a aussi la Bao Family. Alors la Bao Family, c'est Céline Chung qui a créé Petit Bao, Gros Bao, et bientôt d'ailleurs, allez, un petit scoop pour les auditeurs, un nouveau restaurant qui va s'appeler Bleu Bao. Donc vous allez vous tapez Bao Family, hein, sur internet, et vous aurez le détail de toutes leurs offres pour le nouvel an, tout simplement. Et d'ailleurs, donc chez eux, pour le nouvel an, vous composez votre menu vous-même, c'est-à-dire que vous choisissez à la carte,
pas un menu spécialement pour le nouvel an.
Voilà, mais ils ont tout ce qu'il faut, etc. Mmh. Et donc, si vous voulez casser la tirelire, vous allez au Shangri-La, 158 euros par personne, mais pour une cuisine chinoise étoilée, Philippe.
Et si on a gardé ses tickets restaurants, ça marche ou pas?
Écoutez, je ne sais pas s'ils prennent les tickets restaurants au Shangri-La, mais vous pouvez toujours essayer.
Et la street food, alors?
Alors la street food, ça, bah, vous en trouvez de plus en plus à Belleville, mais là où on a vraiment beaucoup de street food chinoise, c'est quand même dans le quartier du 13e arrondissement. D'ailleurs, vous avez aussi Wanam, il y a aussi un restaurant qui s'appelle Wadong, c'est ça?
Wanam Traiteur.
Oui. Donc vous êtes avenue d'Ivry.
On est sur l'avenue d'Ivry et on fait des sandwichs vietnam, des banh mi.
Voilà, les fameux banh mi, hein, là c'est vietnamien, donc là on voit votre double culture sino-vietnamienne.
C'est là où il y a des carottes, un petit peu.
Il y a des carottes, la crudité.
Carottes râpées, donc crudité.
Voilà.
Ouais,
les banh mi, on trouve aussi des rôtisseries, hein, vous faites le canard laqué.
Le canard laqué, le porc laqué.
Voilà. La poitrine cuisine. Toutes les rôtisseries, là on est plus dans le cantonais. Et puis également tous vos produits Roanam, hein, les dim sum, donc les raviolis à la vapeur.
Est-ce qu'on va voir du canard laqué à l'al?
Ben, le canard laqué, oui, on peut l'avoir à l'al, mais il faut avoir juste.
Mais est-ce qu'il y en a qui le font?
Ben, je crois qu'il faut monter toute une filière d'abattage, parce que c'est un canard particulier, hein, pour le canard laqué.
C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Ouais. Mais ce qu'il faut
savoir, c'est qu'en France, la plupart des canards qu'on trouve chez les marchands ou les restaurateurs, on va trouver chez les grossistes, sont des canards gras. C'est-à-dire, ce sont des canards qui sont issus de l'engraissement. C'est pour ça les magrets de canard, vous avez une couche de graisse. C'est ce qu'il dit. Mais par contre, si vous mangez dans un restaurant chinois, on va vous servir du filet de canard qui là a moins de graisse. Et c'est ce canard-là qu'on utilise pour faire le canard.
Le canard du traiteur est pas très grand. Hein, celui dans le 13e, dans le nôtre.
Par exemple.
Bien, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Et bon appétit si vous êtes à table.
Retrouvez Dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.